Bonsoir. Bonsoir à ceux que j'ai pas salués. Voilà, on va continuer notre étude. On va continuer sur la même lancée parce que Gérard avait lancé donc justement l'étude biblique, notamment sur l'Église primitive qui se réunissait et qui accomplissait ce qu'on peut appeler les quatre piliers, de la vie de l'Église, en tout cas juste après donc la Pentecôte. Et ce qui va me concerner ce soir, ce qui va nous concerner tous ensemble, c'est ce que pratiquaient donc les chrétiens de cette église primitive, c'était les prières. Alors c'est la prière communautaire ou la prière collective, le titre de mon partage ce soir. Donc juste pour remettre un peu le contexte, on lit donc dans Actes 2, chapitre 42, que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc Gérald avait déjà traité l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Simon traitera la fraction du pain et pour nous, ce qui nous concerne ce soir, ce sont donc les prières. Alors ce qui caractérisait quand même les temps de prière des chrétiens de l'Église primitive, et notamment les trois autres choses qu'ils faisaient, c'était vraiment le fait qu'ils soient unis et qu'ils étaient accordés tous ensemble pour vivre ces moments-là. Un peu comme s'ils formaient une symphonie, et d'ailleurs lors d'une semaine de prière, John avait bien apporté à ce sujet-là. Chaque chrétien vient comme un instrument différent, joue une note différente, mais tous ensemble s'accordent les uns les autres, et tout cela est orchestré par le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'oublier quand même, c'est à la suite de la venue du Saint-Esprit, de 120 qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Là, l'Église, elle passe à plus de 3000 personnes. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle, une méga-church, quoi, si je devais utiliser les termes d'aujourd'hui. Alors une caractéristique que j'aimerais quand même relever dans ce passage-là, c'est persévérer. Parce qu'ils persévéraient dans les prières. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ainsi de suite, et dans les prières. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque, vous, quand on parle de la persévérance. Mais moi, quand on me parle de persévérance ou quand j'entends parler de persévérance, de persévérer, souvent ça allusion à une situation un peu éprouvante. C'est une épreuve, c'est difficile. Et souvent, on va entendre des personnes dire « ça va, mais je persévère. C'est difficile, mais je persévère. » Et ce qui est étonnant, c'est que je suis parti regarder donc en grec ce que ça voulait dire, là, le mot en grec, parce que ça a été écrit en grec. Quel était le mot ici qui était utilisé? Donc c'est le mot proskartereo. Et en fait, quand on regarde la définition, ça veut dire adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué ou constant à une cause, être constamment attentif, donner un soin incessant à une chose. Et en fait, ce même mot, on le retrouve qu'une seule fois dans un des évangiles, dans un des quatre évangiles. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 3 et au verset 9. Lorsque Jésus va s'adresser à ses disciples, il va leur dire de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasé par la foule. Alors moi, ça m'interpelle parce que je me dis, tiens, donc les chrétiens, en fait, ils adhéraient ensemble en prenant donc un soin particulier à participer et à vivre ces instants qui les réunissaient dans la prière. Autrement dit, les chrétiens persévéraient dans les prières donc ensemble, non pas dans une attitude d'épreuve ou contraignante, mais avec des cœurs disposés, des cœurs attentifs, ils se tenaient à la disposition de ces temps de prière. Ce n'était pas un poids, ce n'était pas une charge, ce n'était pas un fardeau, et les chrétiens étaient constants, ils étaient animés en fait, d'une réelle dévotion au temps de prière. Autrement dit, ils étaient sincèrement attachés à ça. Et je me suis posé des questions, je me suis dit, mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on vit vraiment cette dimension-là quand on vient à l'église, quand il y a des moments de prière? Est-ce qu'on vient avec vraiment ce cœur attentif, avec cette dévotion, ce vouloir de s'attacher fermement ensemble dans l'unité pour prier pour les uns, pour les autres? Ou alors est-ce que des fois on vient en traînant un peu les pattes? Ou alors on va venir des fois avec un cœur qui n'est pas complètement disposé. Et qu'on se comprenne bien, je sais qu'on a tous des combats différents, on a des choses qui se passent dans nos vies, mais là, ce qui m'interpelle tout de même, c'est qu'ils étaient disposés, ils étaient à la disposition de ces temps qui les réunissaient. Alors on peut se demander finalement qu'est-ce qui justifie une telle disposition de cœur? Comment ça se fait que les chrétiens, là finalement, ben, ils arrivent à venir à passer du temps ensemble dans la prière? Eh bien, ça m'a fait penser à ce que David va dire dans le psaume 51, verset 12, il va dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et en fait, cette prière de David, elle fait aussi écho à une prophétie d'Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 36, au verset 26 et 27, quand Ézéchiel va dire « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Le Saint-Esprit venait de descendre, était répandu sur eux, allant jusqu'à imprégner leur cœur de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et là, on voit bien donc un amour vertical qui descend du ciel. Et cet amour, en fait, eh bien, les amenait à passer du temps ensemble, à prendre ces temps de qualité ensemble dans la prière pour prier pour les uns, pour les autres, un amour horizontal. Et cet amour de Dieu leur permettait de persévérer dans les prières. Deuxième chose que j'aimerais relever de cette attitude, aussi notamment par rapport à ces prières, c'est que c'est un point culminant, j'ai noté ça. En fait, quand on regarde le texte, si on le lit correctement dans l'ordre, on s'aperçoit que d'abord il y avait l'enseignement des apôtres, ensuite il y avait la communion fraternelle, ensuite la fraction du pain, et ensuite ça se termine par les prières. Comme si ça se trouvait à la fin. Pourquoi à la fin et pourquoi pas en premier ? Pourquoi en fait les textes n'étaient pas y persévérer d'abord dans les prières, puis dans la fraction du pain par exemple, ou ainsi de suite ? Alors contrairement à ce que l'on pourrait croire, les prières, il ne faut pas les voir comme, vous savez, la dernière chose des quatre à faire. Un peu comme si eh bien, ce n'était pas important. Et moi je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça, il faut plutôt le voir comme un point culminant de leur rassemblement, comme une sorte de progression dans tout ce que vivaient les chrétiens. Pourquoi ? Parce que c'est un ensemble, ces quatre choses. Tout d'abord, l'enseignement des apôtres. Je dirais quelque part que c'est la base. C'est le premier socle pour un chrétien. C'est la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Les chrétiens se rassemblaient donc autour de la parole de Dieu pour être enseignés, pour être nourris. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. C'est ce qui permet aux chrétiens de grandir, c'est elle qui lui permet bien d'avancer, elle éclaire le chemin du chrétien et elle vient édifier quelque part la foi du chrétien. Ensuite, c'est la communion fraternelle. Deuxième socle, on avance. C'est l'édification de la communauté. Parce que les chrétiens, ils partageaient tout. À ce moment-là, on voit qu'ils vont pourvoir aux besoins des uns et des autres pour que personne ne manque de rien. Ils manifestaient en fait non pas des intérêts personnels, mais un intérêt commun, en se souciant des uns et des autres dans l'amour de Dieu. Ensuite vient la fraction du pain, troisième socle, on avance encore. Et là, c'est lorsque toute la communauté, quand tous les chrétiens, tous les rachetés, tous ceux qui ont mis eh bien, Jésus dans leur cœur, qui ont accepté de suivre Jésus, s'approchent ensemble devant Dieu pour se souvenir du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, en partageant un repas et après la Sainte-Cène. Je pense que Simon développera très bien la semaine prochaine sur la fraction du pain. Et enfin, ça se termine donc par les prières. Quatrième socle, non pas comme le dernier, comme étant le dernier des choses à faire, mais ça venait comme le point culminant, liant la relation des chrétiens entre eux avec Dieu dans un esprit d'unité et de communion. Troisième chose que j'ai notée par rapport aux prières, c'est qu'il y avait quand même une base dans les prières. Ne priez pas à tout va comme ça. Ils étaient notamment enseignés donc par les apôtres. Et aujourd'hui, c'est vrai que si nous, on a la Bible, qui est riche d'enseignements, qui est riche vraiment de ressources pour nous pour, par rapport à la prière, eh bien, à l'époque primitive, ce n'était pas aussi simple. Il n'y avait pas le Nouveau Testament comme nous, on l'a aujourd'hui. Et en fait, il s'appuyait essentiellement sur l'enseignement des apôtres. Hormis la Bible, on trouve notamment des ouvrages qui sont intéressants et qui nous permettent d'avoir quelques informations au sujet notamment des prières de l'Église primitive. Et c'est là où je parle de la Didaché. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous connaissez ce que c'est. C'est un des premiers textes chrétiens connus qui ne fasse pas partie du canon du Nouveau Testament. C'est un texte qui a été écrit en grec, qui veut dire en plus enseignement. Donc ça fait penser à enseignement des apôtres, c'est Didaché des apôtres ou des douze apôtres. Et ce livre, cet ouvrage en tout cas, aurait été écrit entre le milieu et fin du 1er siècle, au début du 2e pour certains théologiens. En tout cas, c'est un ouvrage qui a été reconnu par les pères de l'Église. Donc, quand je parle de pères de l'Église, je pense à Irénée de Lyon, à Clément d'Alexandrie, à Eusèbe de Césarée ou encore Origène. Et en fait, la Didaché, ce n'est pas un livre, j'aime bien ce qu'il a exprimé comme terme, monsieur le pasteur Franck Le Filâtre, à la dernière pastorale. Je vais juste reprendre ces termes. Il a dit, disons, des ouvrages qu'on peut trouver qui sont super pour nous, pour nous édifier sur la foi, sont des ouvrages qui sont inspirants, mais pas inspirés. La Didaché, c'est le cas, c'est pas un ouvrage inspirant, c'est un ouvrage inspirant, pardon, mais c'est pas inspiré. La Bible, elle, a été inspirée par le Saint-Esprit, qui a inspiré des hommes, qui a inspiré des êtres humains pour qu'elle soit créée. Mais en tout cas, on apprend dans cet ouvrage, en tout cas, quelques notions sur ce qui se pratiquait à l'époque de l'Église primitive. Là où parfois, eh bien, la Bible ne mentionne pas tout. Eh bien, dans cet ouvrage, on peut trouver certaines choses qui sont intéressantes. Donc, la Didaché donne des renseignements, notamment sur l'accueil des prédicateurs itinérants, sur l'élection des évêques ou des diacres, sur la célébration du culte, ou encore sur la pratique du jeûne. Et dedans, on apprend qu'il y avait des jours qui étaient définis, il y avait des jours spécifiques, ou encore sur la Sainte-Seine aussi. Mais en tout cas, ce qui nous concerne ce soir, ce sont donc les prières. Et dans les prières, on pouvait lire ceci, « Dans l'assemblée ou devant, tu confesseras tes transgressions et tu ne viendras pas à la prière avec une mauvaise conscience. Tel est le chemin de la vie. » C'est intéressant quand même. Ce n'est pas dans la Bible, c'est dans la Didaché, mais ça montrait quelque part quand même qu'ils étaient enseignés de cette manière-là. On a d'autres choses aussi qui sont intéressantes. On a notamment donc le chapitre 8, où il est dit « Ne priez pas non plus comme les hypocrites, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son évangile, priez ainsi. » Et là, c'est le Notre Père. « Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, etc. » Et à la fin, « Priez ainsi trois fois par jour. » Donc on a quand même des notions de temps. On a donc ici, on voit qu'il se basait sur l'enseignement de Jésus. Le Notre Père, c'est Jésus qui l'a enseigné à ses disciples. On a encore d'autres textes où il est écrit « Quand vous priez, quand vous aidez les pauvres dans tout ce que vous faites, agissez en suivant l'évangile de notre Seigneur. » Et enfin, j'ai tiré aussi, alors c'est petit, mais je vais vous les lire, là c'est « Après le repas, quand vous êtes rassasiés, rendez grâce de cette manière. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs, pour la connaissance, la foi et la vie sans fin. Tu nous les as fait connaître par Jésus ton serviteur, gloire à ton nom pour toujours. » J'avance un peu, et cette église que tu as rendue sainte, rassemble-la des quatre vents dans le royaume que tu as préparé. Oui, c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour toujours. Que vienne l'amour de Dieu et que ce monde passe. Hosanna au Dieu de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. S'il ne l'est pas, qu'il change de conduite. Maranatha. Amen. Alors c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça donne des petites précisions quand même. Et notamment ce que je voulais faire ressortir ici, c'est que cet ouvrage, eh bien, vient quelque part confirmer un peu ce que nous on peut retrouver dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est que l'enseignement des apôtres était basé sur ce qu'ils avaient reçu de la part de notre Seigneur Jésus. Donc cet ouvrage nous amène à comprendre que les chrétiens priaient en se basant sur ce que Jésus avait enseigné à ses apôtres et à ses disciples. Et c'est vrai, quand on y repense, quand on se remémore l'histoire des apôtres, de ses disciples, eh bien, ils étaient auprès de Jésus, ils l'ont écouté, ils l'ont entendu, et certainement même qu'ils l'ont entendu dire, de la part de la bouche de Jésus, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Et les évangiles donc, nous rendent compte aussi donc, de deux enseignements de Jésus sur la prière. Il y a la prière sacerdotale, vous savez, celle où Jésus va exprimer, il va à Dieu, voilà, quelque part, il va comme intercéder en faveur de ses disciples, mais aussi pour ceux qui vont croire après, dans le jardin de Gethsémané. Et ensuite, on a aussi la prière que Jésus va enseigner, le Notre Père. La prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, ce qui est intéressant dedans de voir, c'est que Jésus prie pour l'unité et la communion des chrétiens. J'ai juste relevé quelques passages qui me semblaient intéressants pour comprendre un peu dans quel état d'esprit priaient en fait les chrétiens de l'Église primitive. Jésus, donc, dans ce passage, dans Jean 17, il nous dit « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Unité. Verset 21, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et enfin, verset 26 que j'ai relevé, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. » Il y a vraiment donc cette unité qui ressort. Et c'est ce que pratiquaient finalement les chrétiens de l'Église primitive. Dans les prières, il le vivait, ce n'était pas simplement un enseignement qu'il recevait, mais il le mettait aussi en pratique. Ensuite, dans le Notre Père, Matthieu 6 et au verset 5 à 13, Jésus met ici en évidence la prière personnelle. Ça commence par une prière personnelle. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Comme si Jésus veut d'abord mettre l'emphase sur le fait qu'il est important de tisser une relation intime d'abord avec Dieu, dans un premier temps. Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et après, Jésus bascule sur une prière collective. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On comprend donc que l'enseignement des apôtres, en tout cas ce qu'ils enseignaient donc aux chrétiens, était vraiment quelque chose de fort que vivaient les chrétiens à ce moment-là. Ils vivaient cette unité, mais quelque part ils mettaient en pratique tout l'enseignement qu'ils recevaient des apôtres. La quatrième chose que j'ai notée, c'est qu'il y a une place, donc la prière, les prières en tout cas avaient une place importante dans la vie quotidienne des chrétiens. Dans le livre des Actes, on voit que la prière communautaire avait une place importante dans la vie des croyants. D'ailleurs, les nouveaux baptisés étaient tout de suite encouragés, tout de suite formés à être assidus, non seulement à recevoir l'enseignement des apôtres, à participer donc à la vie commune, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, mais aussi à participer aux différents temps de prière. Et d'après la culture juive, on sait qu'il y avait des heures qui étaient consacrées à la prière. Alors j'en ai noté quelques-unes, je n'ai pas tout noté, mais voilà, c'est quelques-unes. Il y avait la troisième heure, ça correspond à 9h du matin dans Actes chapitre 2 et au verset 15. On a aussi la sixième heure à 12h dans Actes 10 au verset 9. Là, il me semble que c'est Paul qui va prier sur le toit d'une maison. Pierre, c'est Pierre. La neuvième heure à 15h, Actes 3 verset 1. Enfin voilà, il y avait donc des temps donnés, des heures, où c'était consacré donc à la prière. Et en fait, ça peut paraître un peu strict, ça peut paraître un peu ordonné comme ça, d'avoir des horaires fixes. Les temps de prière, pour moi, c'était donc quand même important, parce qu'en respectant ces heures, ces chrétiens prenaient véritablement du temps pour prier ensemble, des fois seuls, mais souvent ensemble, et nourrir cette unité qui avait été transmise par le Saint-Esprit. Ils priaient dans diverses circonstances, pour différentes raisons. On a par exemple, avant la Pentecôte, ils vont tous se réunir dans Actes 1, verset 14, tous persévérer d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils vont prier ensemble pour choisir le remplaçant de Judas, dans Actes 1, verset 24 à 26. où il nous est dit, puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. » Et ensuite, il nous est dit qu'ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Ils vont prier aussi pour choisir, vous savez, des serviteurs, des personnes qui vont servir aux tables, dans Acte 6, au verset 3 à 6. Ils vont prier aussi pour envoyer Paul et Barnabas en mission dans Acte chapitre 13 au verset 2. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Même dans la persécution, après l'arrestation de Pierre et Jean, on voit que l'Église prie dans Acte 4 au verset 24. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Oui, j'avais noté, pardon. Ensuite, on voit aussi, lorsque Pierre est en prison, qu'il est en danger de mort, l'Église adresse des prières ardentes à Dieu, dans Acte 12 au verset 5. Paul et Barnabas vont prier pour des jeunes convertis, à un moment donné, dans Acte 14, verset 23. Il nous est dit, ils désignèrent des anciens dans chaque Église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Paul ensuite va prier aussi avec des responsables de l'église d'Éphèse, dans Acte 20, versets 36 à 38. Paul va avec ses amis à Tyr, dans Acte 21 à 46. Enfin, vous comprenez, je pense que vous avez bien compris, que la prière collective, la prière ensemble, eh bien, c'était quelque chose de fort. C'était des temps que les chrétiens prenaient pour véritablement bien prier Dieu pour les projets qu'ils avaient et en toutes circonstances. En toutes circonstances, qu'elles soient bonnes ou pas, les chrétiens prient ensemble. La prière était omniprésente dans leur quotidien. Ils priaient dans les assemblées, ils priaient dans les maisons, ils priaient dans les prisons, ils priaient sur les toits, ils priaient même à la vue des autres. C'est ce qui se passe avec Paul à un moment donné. Et en fait, ça démontrait quelque part une véritable consécration. Et ça doit vraiment nous encourager, nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, d'avoir des temps de prière, de vraiment avoir ce cœur ouvert, ce cœur disposé pour passer des temps dans la prière. Ensuite, cinquièmement, il y a différentes formes dans les prières. Alors, j'en ai noté quelques-unes. On a les requêtes ou les supplications qu'on voit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 18, où Paul va dire « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. La prière d'action de grâce aussi, ou bien de reconnaissance aussi. Paul dira, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. On a aussi la prière d'adoration. Et la prière d'adoration, en fait, elle ressemble un peu à la prière d'action de grâce. Je dirais que la différence, c'est que l'adoration va plutôt se concentrer sur ce que Dieu est, alors que l'action de grâce, pardon, va se concentrer sur ce qu'il fait. Vous comprenez ? Parce qu'il a fait, on va être reconnaissant, mais l'adoration, ça va plus porter sur la personne de Dieu, de qui il est. Ensuite, la prière de consécration, donc c'est des prières, c'est des temps où des fois il va... ça va être un temps qui va être mis à part pour faire la volonté de Dieu. Et je pense à Jésus, donc, quand il était dans ce jardin de Gethsémané, avant sa crucifixion, dans Matthieu 26, verset 39, où il nous est dit qu'il avança quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Enfin, la prière d'intercession, où Paul va exhorter donc Timothée à prier pour tous les hommes, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Et aussi ce que Jésus va donc exprimer dans Jean 17, lorsqu'il va prier donc pour la prière sacerdotale, à ce que j'ai parlé tout à l'heure, quand il va prier pour ses disciples et pour tous les croyants. Quelque part, Jésus est en train d'intercéder devant Dieu, et bien pour que Dieu les préserve, pour qu'ils puissent vivre vraiment cette unité. Et c'est ce qui va se passer après, quand le Saint-Esprit sera descendu. Il y a aussi la prière en esprit, et Paul va très bien développer ça quand il va s'adresser aux Corinthiens, chapitre 14 et au verset 15. « En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc ? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. » Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Et on a aussi eh bien, Paul qui va nous dire dans Romains que le Saint-Esprit, il intercède aussi pour nous quand on n'a pas forcément les mots. C'est ce qu'il rappelle aux Romains, il va dire, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Prier, c'est parler avec Dieu. Et en fait, on doit le faire sans cesse. Paul dira aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances parce que c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Et à mesure que, je dirais, que notre amour pour Jésus-Christ grandit, que notre relation avec Dieu se développe, eh bien, naturellement, nous aurons envie de plus en plus de parler à Dieu. Et on en a besoin. Je vais terminer avec ça maintenant. Je reprends juste en fait, le passage donc, qui nous intéressait, Actes 2, 42, 43, mais je prends le verset juste après. Parce que je pense qu'on ne peut pas passer à côté de la conséquence qu'il y a juste après. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et je trouve ça beau. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Les conséquences de l'unité des chrétiens, notamment dans les prières, eh bien, c'est qu'il y avait cette crainte pour Dieu. Non pas une peur, mais vraiment une crainte qui s'emparait, c'est-à-dire un profond respect de qui ils sont devant Dieu et vraiment de qui est Dieu, ce roi des rois, ce Dieu créateur. Il y avait vraiment cette crainte et cette crainte était eh bien, accompagnée de prodiges et de miracles. Et moi, je ne sais pas vous, mais j'ai envie de voir des prodiges et des miracles aussi s'accomplir. Et je crois que vraiment ce texte, il doit vraiment venir nous interpeller, nous percuter dans notre cœur, peut-être même nous sensibiliser à la notion de prière. À la notion, bien sûr, je ne mets pas de côté les autres aspects, les autres piliers qui sont tout importants, mais de vivre vraiment cette unité ensemble. C'est quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Et si l'Église primitive mettait une emphase importante justement dans la prière communautaire, alors est-ce que nous aussi, nous ne devrions pas le faire? Je crois que oui. Et je pense que c'est important de profiter de ces temps qui nous réunissent lorsque nous avons des semaines de prière et vraiment qu'on vienne avec un cœur disposé pour justement eh bien, vivre cette unité, cet amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et vraiment, c'est un témoignage que nous pouvons porter parce que moi, ce que j'aime dans ce texte des Actes des Apôtres, c'est que en fait, quand on lit plus loin, fin du chapitre 2, peut-être chapitre 3, je n'ai plus de souvenir, mais c'est qu'il y avait un témoignage qui était porté dans la société. C'est que ça se voyait. Ça se voyait que les chrétiens, ils vivaient ensemble, ils priaient ensemble, ils étaient ensemble malgré les différences, malgré peut-être les comportements différents, mais ça se voyait, ça se ressentait, ils étaient quelque part le sel et la lumière dans la société. Et la Bible nous dit que Dieu ajoutait en plus des chrétiens à l'Église. Et ça doit vraiment eh bien, nous encourager justement à vivre cette dimension-là. Voilà, je termine avec ça parce que sinon après il y aurait davantage à développer, mais je veux qu'on puisse avoir un petit temps pour échanger si vous voulez bien.